Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, l'histoire de celui qu'on a appelé l'étrangleur de Strasbourg, ou l'étrangleur de la Robertsau, du nom du quartier de Strasbourg où il a sévi. L'histoire d'un homme qui, dans les années 80, donc, à Strasbourg, viole une petite fille et tue une adolescente en l'étranglant d'abord avec ses mains, puis avec une cordelette. Et qui, dans les années qui suivent, peut légitimement penser qu'il est passé entre les mailles du filet, qu'on ne le retrouvera jamais. Il change de région, il se marie, il a une petite fille, et 26 ans après, un jour, la police vient frapper à sa porte pour lui demander des comptes. Incroyable histoire, l'affaire de l'étrangleur de Strasbourg, que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire commence par une scène de terreur qui a eu lieu il y a longtemps, très longtemps. Le soir du 21 janvier 1986 à Strasbourg, au rez-de-chaussée du 26 quai Zorn. Là habite une famille, un couple et deux petites filles. Après le dîner, les parents les laissent regarder un dessin animé à la télé. Bon, maintenant c'est fini. Vous allez aller vous coucher, hein, chacune dans votre chambre. Allez, oust ! La petite Marion, 10 ans, se met au lit. Elle est en train de s'endormir quand une ombre se penche sur elle. Marion est tétanisée. Elle a le souffle coupé. Quelqu'un s'est introduit dans l'appartement. La pauvre gamine aura beaucoup de mal à raconter la suite. Le traumatisme, sans doute. L'homme commence à l'étrangler avec une cordelette et il la viole. Et il s'en va. Quand elle reprend ses esprits, elle est dans le couloir couchée par terre. Elle a froid, elle ne se sent pas bien, mais elle ne réalise pas du tout ce qui lui est arrivé. Elle a juste mal au niveau du cou. Elle se lève comme dans un demi-sommeil. Elle va dans sa chambre et elle se couche et elle s'endort. Ça n'est que le lendemain matin, au réveil, qu'elle réalise. Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman, on m'a étranglée. La mère prend la gamine dans ses bras et elle arrive dans le salon. Et là, la gamine s'aperçoit qu'il y a des policiers dans tout l'appartement. Car au réveil, ses parents ont trouvé la porte ouverte et du désordre partout. Ils ont pensé que c'était un cambriolage. Ils ont appelé la police. Mais ça n'était pas qu'un cambriolage. Le voleur était un violeur. Marion file dans la salle de bain. Elle se regarde dans la glace. Elle a des traces autour du cou et les yeux rouges, dont un œil amoché. À part ça, les policiers ont découvert un carreau cassé. Mais aucune trace. Marion, tu peux nous dire comment il était, ce monsieur? Je me souviens pas très bien. Je l'ai pas bien vu. Elle aide à établir un portrait robot assez imprécis. Les policiers reviennent quelques jours plus tard avec un album photo des délinquants sexuels de la région. Regarde ces photos, Marion. Et dis-moi si tu reconnais le monsieur qui t'a fait du mal. Elle regarde les photos une par une. Elle n'en reconnaît aucun. Deux semaines plus tard, le téléphone sonne dans le même appartement. Le père va décrocher. Écoutez bien, c'est un enregistrement d'époque.
Allô ? Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ?
Comment ?
Elle va bien, c'est bien remis ?
Qui est à l'appareil ?
Bah devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois.
Comment vous appelez-vous ?
Ah, Zorro.
Zorro. Zéro, oui. Le salopard. Il vient narguer les parents. Les flics avaient placé la ligne sur écoute, et c'est comme ça que cet enregistrement est arrivé jusqu'à nous. Malheureusement, en 1986, on ne sait pas techniquement remonter un appel téléphonique. On ne peut pas savoir d'où il vient. Alors, on confie la bande magnétique à un expert psychiatre et on lui demande de profiler, en quelque sorte, le bonhomme. Il y va franco, le psychiatre. Il pense que c'est un jeune qui vit seul dans un studio, ou alors avec sa mère. Ah, c'est beau la science, hein. Il aurait une intelligence moyenne, ce serait un grand pervers à tendance sadique, un type qui aime faire souffrir. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et on peut imaginer qu'il est prêt à repasser à l'acte, n'importe quand. 3 mois plus tard, le 17 mars 1986, à moins de 2 kilomètres de chez Marion, l'homme s'introduit dans un 2 pièces au rez-de-chaussée, chez 2 sœurs, 2 étudiantes, Patricia et Martine Rice, 17 et 18 ans. Le lendemain, on découvre Martine Rice en chemise de nuit, morte, la face contre le sol, sur le carrelage. Et à côté du corps, une petite touffe de poils et une paire de ciseaux de couture. Les poils sont des poils pubiens. Ce sont ceux de Martine. L'enfoiré a voulu emporter un souvenir, et puis il l'a oublié. Le psy de la précédente affaire avait raison. C'est un grand pervers. D'après les légistes, Martine Rice a été étranglée. D'abord avec les mains, et finalement avec une cordelette. Et après, il s'en est pris aussi à sa sœur, Patricia. Voilà ce qu'elle raconte.
Je dormais. Je me suis réveillé d'un coup. J'avais une cordelette autour du cou et il serrait. Et là, j'ai hurlé. J'ai hurlé tellement fort que... Je sais pas, c'est ça qui a dû lui faire perdre ses moyens. Il a arrêté et il est parti.
Et dans la panique, il a abandonné sa cordelette au pied du lit. Aujourd'hui, avec l'ADN, ce serait pain béni, mais à l'époque, ça ne sert pas à grand-chose. Il a laissé aussi 2 belles traces de main sur la coiffeuse située près du lit. Pas des empreintes digitales, malheureusement, mais des empreintes qu'on appelle palmaires, l'empreinte de ses paumes de main. Mais là encore, en 1986, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de fichier des paumes de main. Alors qu'aujourd'hui, oui. À part ça, il est rentré par la fenêtre des toilettes, la vitre est cassée, il y a une pierre sur le sol. Alors est-ce qu'il faut faire le rapprochement avec le viol de la petite Marion? Eh bien oui. Reconnaissez que les similitudes sont nombreuses. D'abord le quartier, la cordelette pour étrangler, la vitre cassée, l'appartement au rez-de-chaussée. Et donc c'est le même juge qui est chargé d'instruire les 2 dossiers. Dans les années qui suivent, rien de neuf. Au bout de 2 ans, pour tenter de relancer l'enquête, les policiers décident de diffuser sur FR3 l'enregistrement sonore de l'appel de l'étrangleur. Est-ce que quelqu'un reconnaît sa voix ?
Elle va bien, c'est bien remis.
Qui est à l'appareil?
Bah devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois.
Comment vous appelez-vous?
Ah, Zéro.
Le commissaire Boll bat ensuite le rappel devant les caméras. Bien, la voix que vous venez d'entendre est celle d'un individu auteur du viol et d'une tentative d'assassinat par étranglement d'une jeune fille de 10 ans en janvier 1986 à Strasbourg. Nous avons recours à une technique télévisuelle pour tenter d'identifier cet individu qui échappe aux recherches de la police. Mais personne n'appelle. Personne n'a reconnu la voix. Et ensuite, les années passent, sans rien de neuf, et sans que l'étrangleur ne repasse à l'action. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Sans aucune avancée. 20 ans plus tard, la petite Marion est devenue une femme de 30 ans. Elle y pense tous les soirs en se couchant. Est-ce que quelqu'un ne va pas rentrer dans ma chambre? Et elle en fait des cauchemars toutes les nuits. Et souvent, elle se réveille en sursaut, tirée du sommeil par son propre cri. Mais ne croyez pas que les flics ont lâché l'affaire. Pendant toutes ces années, le dossier reste dans un tiroir et tous les nouveaux le lisent. Et quand ils ont un peu de temps, ils le ressortent. Vingt-deux ans après le viol de Marion et le meurtre de Martine, l'enquête rebondit de manière inattendue. Une femme se présente dans un commissariat d'Angers, très loin de Strasbourg. Elle veut faire une déposition.
« Bonjour. Voilà, je voudrais dénoncer mon ex-mari. C'est lui le violeur et l'étrangleur de Strasbourg. »
Le patron de la police judiciaire de Strasbourg fait immédiatement le déplacement à Angers. Et voilà ce que raconte la dame.
« À l'époque, j'ai reconnu la voix de mon mari dans l'enregistrement qui est passé à la radio et à la télé. C'était la voix de mon mari, j'en suis sûr. Et j'en ai parlé avec lui. Il a reconnu. » Mais j'ai rien dit à l'époque, j'avais peur des représailles.
Et aujourd'hui, pourquoi vous venez nous le dire?
On a fini par se séparer, il n'y a pas longtemps.
Miraculeux! Mais pardon de doucher tout de suite votre enthousiasme, des policiers experts comparent les deux voix. Rien à voir, rien! Fausse piste, cette femme divague! Mais rassurez-vous, on va le retrouver. Au début des années 2000, la France crée un fichier des empreintes palmaires. À partir de ce moment-là, quand quelqu'un est suspecté dans une affaire criminelle, et encore mieux condamné, on prend non seulement ses empreintes digitales, mais aussi son empreinte palmaire, l'empreinte de ses deux paumes. Les policiers de Strasbourg, qui, je vous le répète, n'ont jamais lâché cette affaire, versent les deux empreintes de l'étrangleur au fichier. Au début, forcément, ça ne peut pas payer. Il y a peu d'empreintes dans la base de données. Mais les années passent et le fichier grossit. Et un jour en 2012, le 18 septembre, ça match! La technicienne de l'identité judiciaire prévient tout de suite la PJ. Allô? Dites donc, votre étrangleur, là. J'ai une empreinte qui vient de rentrer au fichier. Ça match! Incroyable! 26 ans après, on va peut-être le coincer. Le type en question a volé un portefeuille dans le vestiaire d'une piscine de Saint-Jean-d'Illac, près de Bordeaux, en Gironde. Il s'appelle Nicolas Charbonnier. Bon, ne nous emballons pas, hein. Le type était peut-être un copain de Martin Rees à l'époque, auquel cas il y a de bonnes raisons que l'empreinte de sa pomme soit sur la table de nuit. Et puis c'est un voleur de portefeuille, ça n'est pas du tout le même profil. Donc les flics se disent, ne nous précipitons pas pour l'arrêter. Pendant 4 mois, ça c'est incroyable, mais c'est vrai, les flics se préparent à son interrogatoire. Ils le répètent. En inversant les rôles, un coup suspect, un coup policier. Quelle question est-ce que je lui pose? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et quand ils sont prêts, c'est-à-dire le 21 janvier 2013, ils déboulent à Saint-Jean-d'Illac pour interpeller Nicolas Charbonnier. Le type mène une vie ordinaire. Il est divorcé, il a une petite fille, il est intérimaire. Les policiers le laissent amener sa petite fille à l'école. Et quand il revient chez lui. Bonjour monsieur, police judiciaire de Strasbourg. À compter de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Ils ne lui disent rien. Ils ne lui parlent ni du meurtre ni du viol. Rien. Il n'oppose aucune résistance. Mais quand il le voit, le commissaire Itinger, au pif, au flair, le tarin des flics est particulier, se dit, c'est lui. « Je suis sûr que c'est lui. Et maintenant, il faut qu'il avoue. » Ils ont un atout, vous le savez, l'empreinte palmaire. Mais pas question de la poser sur la table tout de suite. Selon leur plan, c'est lui qui doit poser la première carte. Vous avez bien vécu à Strasbourg, monsieur Charbonnier, dans les années 80.
Ouais, oui, c'est vrai. J'ai habité à Strasbourg chez mes parents. Mais je n'y ai jamais commis de délit, d'aucune sorte.
L'idée des flics de la PJ est de lui faire sentir qu'ils ont un atout, mais que pour l'instant, ils le gardent pour eux.
C'est vrai qu'à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un. C'était un peu comme un mentor, si vous voulez. C'est vrai qu'il m'a entraîné à faire des bêtises.
Quel genre de bêtises, monsieur Charbonnier?
Bah, des petits cambriolages, quoi.
On avance, on avance. Il a compris qu'ils ont quelque chose, mais évidemment, il ne sait pas quoi. Les policiers lui font faire alors la liste de ses cambriolages. Et à un moment...
Et puis une fois, je me souviens, je suis allé dans un appartement au rez-de-chaussée, je me souviens, c'était Quai Zorn, au 26, je crois.
Il vient d'avouer qu'il est entré chez Marion, la petite qui a été violée. Et là, il est cuit, parce que ça n'est pas chez Marion qu'on a retrouvé l'empreinte palmaire, c'est chez Martine. Le piège a fonctionné. S'il est allé chez Marion, c'est qu'il est allé chez Martine. Et pas parce que c'était une copine, mais pour la tuer. Du grand art, franchement. L'art de l'interrogatoire poussé à la perfection. Et vous savez ce que font les flics, 27 ans plus tard? Ils appellent tout de suite Marion.
On voulait vous prévenir. La personne qui vous a agressé en 1986, elle a été arrêtée.
Quoi? Vous êtes sûr que c'est lui?
Beaucoup d'éléments nous permettent de le penser.
Et maintenant, il lui pose tout sur la table. Il est là pour un meurtre, un viol et une tentative de meurtre. Charbonnier nie tout, en bloc. Là-dessus, son arrestation sort dans la presse. On aurait arrêté l'étrangleur de la Robertsau. L'étrangleur de Strasbourg.
27 ans après les faits commis en Alsace, le suspect a été arrêté hier près de Bordeaux. Il a été transféré à Strasbourg.
Le commandant de l'APJ Itinger est furax. Et vous connaissez les journalistes. Hein. Ils en profitent pour rediffuser l'enregistrement de l'étrangleur. Eh oui, il faut bien nourrir les reportages. À ce moment-là, les flics ont placé toute la famille de Nicolas Charbonnier sur écoute. Les parents, les frères, les sœurs, tout le monde est branché. Et voilà ce qui se dit chez les Charbonniers.
T'as entendu à la télé? C'est la voix de Nicolas. C'est la sienne, j'en suis sûr.
Qui est mieux placé que la famille pour reconnaître la voix d'un proche? Merci les journalistes. Oh, de rien. Nicolas Charbonnier est présenté à une juge d'instruction en vue de sa mise en examen.
Monsieur Charbonnier, vous l'ignorez sans doute, mais la nouvelle de votre arrestation a fait grand bruit dans toute la France. Ah, ben non, je sais pas. Votre famille, notamment, a eu vent de la nouvelle à la télévision. Et les télés ont rediffusé l'enregistrement d'un certain Zorro.
Et là, la juge enclenche son magnétophone.
T'as entendu à la télé? C'est la voix de Nicolas. C'est la sienne, j'en suis sûr.
Il entend sa famille, ses sœurs, ses parents, qui le reconnaissent. Et là, il craque.
Bon, d'accord. Je reconnais les faits. Mais j'ai besoin de temps pour vous expliquer les détails. Je n'arrive pas à me souvenir précisément de ce que j'ai fait.
Amnésique? On le soumet alors à un expert psychiatre. Réponse du psy.
Non, il n'est pas amnésique.
Il chique. Il est dans le déni. Il fait semblant d'avoir oublié ses crimes. Pour le confronter à sa responsabilité, la juge d'instruction ordonne alors une reconstitution. Dans l'appartement du 26 Quai Zorn, à Strasbourg. Là où Marion a été violée 27 ans plus tôt. Et elle est là, Marion. Elle avait 10 ans, elle en a 37. Et franchement, elle ne le reconnaît pas. Bien. Allez-y, monsieur Charbonnier, refaites les gestes au moment où vous pénétrez dans l'appartement. Pas de problème. Il montre comment il a cassé le carreau. Mais après, ça se complique. On a mis un mannequin en plastique de la taille d'une fillette de 10 ans dans l'ancienne chambre de Marion, dans son lit. Il refuse de refaire le geste. Un policier doit le faire à sa place. Au total, pendant cette reconstitution qui dure 5 heures, il n'est pas très loquace. Il répète en permanence.
« Je suis désolé, je ne me souviens pas. »
Et jamais il ne regarde Marion. Pas une minute. Elle l'a remarqué. Et puis, au fil de l'instruction, il finit par reconnaître les deux crimes. L'agression de Marion et le meurtre de Martine. Et un mois après son arrestation, le procureur de la République reçoit une lettre d'une femme. « Monsieur le procureur, j'ai été victime d'un agresseur qui avait le même mode opératoire. J'ai le souvenir de la cordelette qui m'étranglait la gorge, du couteau, de ma nudité et de l'homme masqué au-dessus de moi qui m'a jeté dans la nuit intérieure durant des années. Ça fait 28 ans que j'attends ce moment-là. Pas un soir je ne me suis couché sans avoir la peur au ventre. » Cette femme s'appelle Patricia. À l'époque des faits, en 1985, elle avait 26 ans. Elle est allée chez les flics, mais elle ne leur a parlé que d'un cambriolage. Elle n'a rien dit du viol. Et cette femme, depuis 28 ans, a gardé une preuve, figurez-vous. Une preuve qui, à l'époque, était absolument inexploitable, mais qui, en 2013, devient très précieuse. Elle a gardé un morceau de la moquette sur lequel son agresseur a éjaculé. Un morceau de 4 mètres sur 3, roulé, qu'elle a conservé au fil de ses déménagements. C'est pain béni. Le juge d'instruction demande immédiatement une expertise ADN. Et malheureusement, il n'y a aucune empreinte ADN sur le bout de moquette. Aucune. Le temps qui s'est écoulé, sans doute, les mauvaises conditions de conservation. Et sans preuve, tant d'années après, il est impossible de rajouter ce viol au dossier. Là-dessus, dans leurs archives, les policiers retrouvent une agression commise avec le même mode opératoire, dans le même quartier, à la même époque, en novembre 1986. Étonnant qu'on n'ait pas fait le lien à l'époque, au passage. La victime s'appelle Marie-Paul. Elle aussi, on a commencé à l'étrangler avec une cordelette. Interrogée à nouveau, Nicolas Charbonnier reconnaît qu'il est l'auteur de l'intrusion chez elle, d'un cambriolage. Mais l'étranglement, non.
Non. Elle, je l'ai juste bousculée. Et là, elle s'est tapée la tête contre la table de chevet, je me souviens. Et là, je suis parti, en abandonnant ma cordelette.
Si on met bout à bout toutes ces agressions, on s'aperçoit que Charbonnier passait à l'action dans un périmètre de 2 km autour du domicile de ses parents chez qui il vivait, toujours la nuit. Et donc après, il pouvait rentrer à pied. Au total donc, il se trouve mis en examen pour un meurtre, une tentative de meurtre et 3 tentatives d'assassinat. 5 affaires au total. Mais là, il y a un hic, la prescription. À l'époque, avant la loi de 2017, les crimes sont prescrits au bout de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Et le délai de prescription commence à courir au dernier acte de l'instruction. On ne peut pas le poursuivre pour ce qu'il a fait à Marie-Paul, ni pour la tentative de meurtre sur Patricia Riss. C'est trop ancien. En revanche, pour le viol de la jeune Marion, et dans le meurtre de Martine Riss, là, je vous l'ai expliqué. Les policiers ont pris le soin de ressortir le dossier régulièrement, de faire de nouvelles investigations au fil des années. Par exemple, quand en 2000, ils versent l'empreinte palmaire au fichier. C'est un acte d'instruction. Et puis dans le cas de Martine Rees, il y a ce qu'on appelle une circonstance aggravante. Vous vous souvenez, la petite touffe de poils pubiens qu'il coupe avec ses petits ciseaux là et qu'il oublie sur place. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de barbarie qui porte atteinte à la dignité de la victime. Et quand il y a acte de barbarie, la prescription n'est plus de 10, mais de 20 ans. On va donc pouvoir le juger dans ces deux affaires, le viol de Marion et le meurtre de Martine. Le procès de Nicolas Charbonnier s'ouvre le 17 mars 2016 à Strasbourg, 30 ans après les faits. Quand il entre dans le box, évidemment, il ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on s'était faite de l'étrangleur de la Robertso. Ça n'est pas Jack l'éventreur, c'est un quinquagénaire, banal, avec un petit gilet qui courbe l'échine. Un père de famille dont la propre fille a l'âge de Marion quand il l'a agressée. Un procès d'assises commence souvent par le portrait de l'accusé. Et là, on cherche évidemment ce qui a pu déclencher ces agressions, commises alors qu'il avait 20 ans. Il est né dans une famille catholique pratiquante, 9 frères et sœurs. Son père était militaire et sa mère au foyer. Mais quand je dis que son père était militaire, il était plus que ça. Il était officier supérieur, sorti premier de Saint-Cyr. Et lui aussi, Nicolas, il a voulu devenir militaire, et c'est peut-être là que se situe la rupture. Au bout de 5 ans dans l'armée, il est caporal. Il annonce qu'il arrête. Il dit à ses copains de l'époque, « C'est pas fait pour moi ». En réalité, son dossier militaire le décrit comme médiocre. Et c'est donc à ce moment-là, on est en 1985, qu'il retrouve sa petite chambre chez papa-maman, à Strasbourg. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un prédateur.
Je me suis dit, puisque je pouvais pas être bon pour les autres, je me suis dit, je vais être le meilleur dans l'autre sens, quoi. Dans le mal, dans la noirceur.
Quand il se fait appeler Zorro, il n'est pas un vengeur masqué. Il est le vengeur de ses propres échecs, le vengeur de sa vie ratée.
Et ensuite, dès qu'il quitte Strasbourg, dès qu'il va s'installer près de Bordeaux, il arrête tout.
D'après les psychiatres, il a ce qu'on appelle une personnalité clivée. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, il a enfermé ses crimes dans une boîte et que ça lui a permis de vivre sans aucune culpabilité.
On attend évidemment avec beaucoup de curiosité le témoignage à la barre de son ex-femme, la mère de sa fille, avec laquelle il a vécu une vie tout à fait banale. On imagine qu'elle est tombée de l'armoire.
Nicolas, qui a été mon mari pendant 20 ans, était un compagnon idéal. C'était un mari idéal. C'était un père idéal pour sa fille. Vous savez, quand elle est née en 2005, il a arrêté de travailler pour s'occuper d'elle. Moi, j'ai été trop prise par mon travail.
Et après le divorce, ils sont restés amis. Il y a un gouffre entre les faits pour lesquels on le juge et le bonhomme que décrit cette femme. Vient ensuite le témoignage des victimes. Toutes, y compris celles dont le crime est prescrit. Mais le témoignage qui marque, c'est celui de Marion. Elle entre dans la salle. Là, elle est prise d'une bouffée d'angoisse. Elle ressort, elle va boire un café avec son avocat, elle revient. Elle s'avance à la barre. Elle accroche ses deux mains. Et 30 ans après, en sanglotant, elle raconte, bouleversante. Et dans son box, Charbonnier s'effondre. L'audience est suspendue. Après 2h30 de délibéré, le verdict tombe. Nicolas Charbonnier, 30 ans après ses crimes, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et il ne fait pas appel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.